Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Corne de l'Afrique, attentat à la voiture piégée ce mercredi à Mogadiscio en Somalie. Au moins 2 personnes ont été tuées et 12 blessées dans l'explosion d'un véhicule conduit par un kamikaze à un barrage dans le secteur de Daljioka. Les victimes sont des civils et des membres des forces de sécurité, a indiqué Abdou Kadir Ahmed, un responsable sécuritaire. Plusieurs véhicules ont été détruits par l'explosion, a précisé Mohamed Sané, un témoin oculaire. L'attentat a été revendiqué par les militants islamistes Chebab, affiliés à Al-Qaïda, qui disent avoir visé un convoi escortant des officiels et parlementaires apostats qui se dirigeaient vers le palais présidentiel. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Afrique centrale maintenant, intensification du scandale du Kevasingo au Gabon. Le président Ali Bongo a mis fin hier soir aux fonctions de son vice-président et de son ministre des Forêts. À l'origine de ces sanctions, l'affaire du détournement des conteneurs du bois Kevasingo, une essence précieuse dont l'exploitation est interdite. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obian Nze.
Cette décision a été annoncée par un bref communiqué lu hier soir à la télévision nationale par Jean-Yves Thiel, secrétaire général de la présidence. Le vice-président de la République, Pierre Claver Manganga-Moussaou, en place depuis environ 3 ans, a été limogé. Le leader du Parti social-démocrate avait été nommé à ce poste au sortir du dialogue organisé à l'issue de la crise électorale de 2016. À l'époque, c'était vu par l'opinion publique comme une récompense donnée à l'opposant, c'est selon. Si on en sait moins sur les motivations de l'éviction du vice-président, ce n'est pas le cas du ministre d'État en charge des Forêts. Le limogeage de Guy Bertrand Mapangu serait une sanction après son récent communiqué de presse qui est apparu comme un pied de nez vis-à-vis du chef du gouvernement. Ce dernier, Julien Corbet-Calé, par la voix du porte-parole de son cabinet, avait appelé à la démission des ministres impliqués dans l'affaire des conteneurs du bois Kevasingo disparus au port de Libreville. En attendant les derniers développements de ce dossier, le ministère des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat, est désormais rattaché au service de la primature et placé sous l'autorité directe du chef du gouvernement. Libreville, Ismaël Obianze, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, c'est finalement la date du 30 mai qui a été retenue pour le rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi en RDC. Un retour qui se fait plus de 2 ans après le décès du leader historique de l'UDPS, dont le fils, Félix Tshisekedi, est devenu président de la République après la présidentielle du 30 décembre 2018. Eddie Sango a joint à Kinshasa le tout nouveau chef de la maison civile du président Félix Tshisekedi, à savoir Monseigneur Gérard Moulumba, évêque émérite de Moueka dans le Kassai et frère de feu Étienne Tshisekedi.
C'est confirmé jusque-là, donc on a décidé de rapatrier le corps le 30 mai. Jeudi 30 mai matin, le corps va arriver à Kinshasa. Et durant 3 jours, il y aura les hommages jusqu'à samedi, le 1er juin, où l'inhumation sera prévue dans la journée.
Où en sont les travaux du mausolée ou de l'endroit où il devait être enterré, enscellé?
Pratiquement terminé. La préparatif pour le caveau, le mausolée viendra plus tard. Mais pour le moment, donc, c'est le caveau et l'aménagement du site d'inhumation pour la circonstance.
Il y avait une mésentente entre la famille, avec à ses côtés les partis l'UDPS et l'ancien pouvoir ou l'ancien régime. Comment en êtes-vous arrivé à choisir cet endroit? Comment vous en êtes convenu? Parce que maintenant, c'est son fils qui est le président de la République.
En 2017-2018, nous avions choisi d'autres sites qui avaient été rejetés par le régime de ce temps-là. Mais par après, nous-mêmes, nous avons choisi un terrain à nous, donc pour la famille. Et même cette année, nous avons maintenu ce choix-là. Nous ne sommes plus revenus vers le site du centre-ville. Nous avons trouvé que ce site-là que nous avions retenu pour nous le meilleur.
Quels sont les présidents d'autres pays qui seront invités à ces funérailles?
Non, là, je ne pourrais pas vous donner tous ceux qui viendraient, mais il y a une vingtaine de délégations de pays étrangers qui vont venir, d'après ce qu'on a appris à la présidence. Il y aura une communication officielle là-dessus. La présidence n'a pas encore donné ces informations-là.
Beaucoup de choses ont été dites sur la dépouille. Certains pensent qu'elle avait été enterrée momentanément.
Non, non, tout cela, ce sont des bobards qu'on a racontés. C'était faux. Le corps est toujours gardé à la morgue de Bruxelles.
Mais pendant plus de 2 ans, ça doit coûter énormément d'argent, les yeux de la tête quand même. Qui paye ça?
L'État congolais a accepté de payer la facture. On a facturé la famille, mais la famille s'est référée à l'État congolais qui a accepté d'honorer la facture.
Est-ce que la dépouille passera par l'IMETE à son domicile ou alors au siège du parti?
Non, là, c'est le conseil de sécurité qui décidera la demande du parti et de la famille, mais je ne suis pas sûr que ce sera facile à faire. Là, le dernier mot revient au conseil de sécurité avec le protocole d'État.
Monseigneur Gérard Moulumba, évêque émérite de Moueka dans le Kassai, frère de feu Étienne Tshisekedi et oncle de l'actuel président de la RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît dans son rapport du mois de mai que la situation en matière de sécurité dans le Sahel a continué à se détériorer, avec maintenant des retombées sur les pays voisins non membres du G5 Sahel, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Le rapport onusien note que les attaques se multiplient, les prises d'otages deviennent plus fréquentes et les zones d'insécurité ne cessent de grandir. Les groupes djihadistes sont omniprésents au Sahel où leur stratégie porte ses fruits, malgré l'action des forces militaires africaines et occidentales, souligne le document. Le Conseil de sécurité estime que les groupes armés terroristes comprendraient 1 000 à 1400 hommes au Mali. Il y aurait aussi plusieurs centaines d'éléments armés au Burkina Faso, pour un total d'environ 2 000 sur tout le Sahel. Conflit en Libye, les combats continuent au sud de Tripoli, la capitale, et ils ont gagné en intensité mardi alors que l'émissaire onusien pour la Libye, Ghassan Salamé, mettait en garde devant le Conseil de sécurité de l'ONU contre le début de ce qu'il a appelé une guerre longue et sanglante. Plus de 6 semaines après avoir lancé l'assaut sur Tripoli, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye et son armée nationale libyenne autoproclamée font toujours face à la résistance des forces du GNA, le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale qui est basée dans la capitale libyenne. Cette bataille pourrait conduire à la division permanente de la Libye, a averti Ghassan Salamé. Actualité aux États-Unis maintenant, les parlementaires américains expriment à Washington des vues très divergentes sur la menace posée par l'Iran après les briefings à huis clos faits hier par l'équipe de sécurité nationale du président Donald Trump à tous les membres de la Chambre des représentants et du Sénat. Les précisions d'Anne Albertson.
La tension n'a cessé de monter entre Washington et Téhéran avec l'envoi dans la région d'un porte-avions américain et de bombardiers B-52 depuis que l'Iran a été accusé de préparer des attaques imminentes contre les forces et intérêts américains. Ils ont expliqué qu'il s'agissait d'une escalade sans précédent, a déclaré le sénateur républicain Lindsey Graham, un faucon, après le briefing du secrétaire à la défense par intérim, Pat Shanahan, du secrétaire d'État Mike Pompeo et du chef d'état-major interarmes, le général Joseph Dunford. Les démocrates ne le voient pas ainsi et ont même exprimé des doutes sur la sagesse de la politique de pression maximale de l'administration Trump contre l'Iran. Mais M. Shanahan soutient que le déploiement américain a servi de moyen de dissuasion face à la menace contre les forces et intérêts américains.
Conflit en Syrie, au moins 12 civils ont été tués ce mercredi dans des frappes aériennes contre le dernier bastion djihadiste en Syrie, dans le nord-est du pays, alors que des combats intenses se poursuivent entre djihadistes et forces pro-régime. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les 12 civils sont morts dans des raids menés dans la nuit de jeudi à vendredi contre la ville de Maharet al-Nouman. L'ONG dénombre aussi 18 blessés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme n'est pas en mesure de préciser si les frappes ont été menées par l'aviation russe ou syrienne. Et pour terminer, l'Afrique du Sud a annoncé mardi sa décision d'extrader vers le Mozambique l'ex-ministre mozambicain des Finances Manuel Chang, arrêté fin 2018 sur son territoire dans le cadre d'un vaste scandale de corruption. Au Mozambique, l'ex-ministre, 63 ans, a été arrêté à l'aéroport international de Johannesburg en décembre dernier sur requête de la justice américaine pour son implication présumée dans une affaire de prêt frauduleux de 2 milliards de dollars. La justice américaine avait également réclamé son extradition aux États-Unis.